Bonjour à tous, nous sommes réunis pour un show de vent, Festival TV de Luchon, avec Répercussions. Et bonjour Léo.
Bonjour Vanessa.
Une nouvelle semaine qui commence, ton week-end s'est bien passé?
Peu reposant, mais un bon week-end malgré tout, hein, on est là.
Eh ben oui, on est présent. Et on va parler du Festival TV de Luchon avec Répercussions. C'est un unitaire qui était en compétition. Alors c'était l'année dernière, enfin au début de l'année en fait, en février 2023. C'est pour ça que je dis un peu l'année dernière parce que on n'en est pas loin. Hein. Ça fait bientôt un an. Et j'avais découvert cet unitaire avec grand plaisir parce que le sujet était très... très difficile, mais de quoi ça parle, Léo ?
Un groupe d'amis voit leur vie bouleversée quand l'un des leurs meurt sur la route après une soirée d'anniversaire bien arrosée. Salomé, sa veuve, absente à la soirée, tombe des nues quand on lui apprend que Sébastien, si prudent au volant d'habitude, a été retrouvé avec plus de 2 grammes d'alcool dans le sang. Elle veut comprendre. Que s'est-il passé cette nuit-là ? Que peut-elle dire de la mort de son père à Léo ? Leurs petits garçons, Paul, Élie, Ethan, leurs amis, n'ont-ils pas vu qu'il avait trop bu ? Si oui, pourquoi l'aurait-il laissé prendre le volant ? Ont-ils quelque chose à voir avec la mort de Seb ? Salomé n'a pas d'autre choix que de porter plainte et créer ainsi une onde de choc qui aura des répercussions sur leur amitié de toujours.
L'équipe du film était présente au Festival TV de Luchon, notamment la réalisatrice Virginie Wagon et l'actrice que j'affectionne énormément, c'est Marie Desnarnaud, qui joue le rôle de Salomé. Et on a eu la chance de pouvoir les avoir en interview avec mon acolyte du moment du Festival TV de Luchon, qui s'appelle Jean-Christophe Nuel et qui est à Bulle de Culture.
Comment vous vous êtes rencontrées toutes les deux ? Parce que c'est impressionnant ce que vous faites passer à l'image, Marie, et ce que vous nous transmettez par le regard de Marie.
Ben, on s'est rencontrés tout simplement en fait, au casting, un matin, tôt. J'ai rencontré la première fois Marie, elle fumait une clope dehors, non ?
J'étais avec la casting qui fumait une clope parce que moi je fumais pas.
D'accord, oui.
Moi je devais boire un café.
Tu devais boire un café et je suis arrivée par une petite rue transversale et je t'ai d'abord vue un peu de trois quarts avec Fanny.
On a fait des essais. Moi j'avais lu le scénario et je connaissais le travail de Virginie puisque j'avais notamment vu Clara s'en va mourir que j'avais adoré. Et puis j'avais vu plein d'autres choses auxquelles tu avais participé, évidemment comme La vie rêvée des anges ou quoi. Et j'avais été quand même assez emballée par les personnages. Il faut savoir que moi j'avais passé le casting pour les deux rôles féminins. Et donc c'était un drôle de casting parce que je savais pas par qui on allait commencer, etc. Et on s'est tout de suite jeté dans le travail avec Virginie. Et moi ce que j'ai adoré, c'est que j'ai attaqué les essais. Moi je suis plutôt assez bonne en essais, je travaille bien, j'aime bien ça. Il y a des acteurs qui ont très peur, mais moi j'aime bien. Et tout de suite elle m'a dit ah non, mais pas du tout Marie, on va faire complètement autre chose. Et là je me suis dit waouh, j'adore. Et elle m'a fait tout casser ce que j'avais proposé pour aller chercher d'autres choses. Et on est ressorti de là. J'avais jamais travaillé comme ça autant et aussi joyeusement et aussi simplement. Alors qu'on avait que des trucs difficiles à faire, de l'alarme, du machin, du bidule. Et que c'était une merveille. Je me sentais complètement emmenée. Et je me sentais aussi dans quelque chose où on me laissait pas faire ce que je sais faire, mais on me proposait un travail commun pour aller vers quelque chose dont je savais pas encore ce que ça allait être. Et j'ai senti tout de suite et je me suis dit, si je travaille pas avec elle, je vais crever. Et heureusement, elle m'a choisie.
C'est un peu sortir de votre zone de confort tout en étant entourée et choyée.
Oui.
Choyée, très choyée.
Pour arriver au casting, j'imagine qu'il y avait un scénario ou une idée. Enfin, qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet, qui vous a donné envie
C'est quand même des très beaux personnages, tous. Après, il y avait quelque chose d'un peu sur un fil hein, dans le scénario, parce que moi, j'avais peur, je voulais pas que ce soit quelque chose qui aurait pu sombrer dans du moralisme ou dans du pathos ou un peu le procès de l'alcool, etc. Et quand j'ai rencontré Virginie, au-delà du fait que, encore une fois, il y avait des vraies scènes à jouer, donc n'importe quelle actrice aurait eu envie d'aller au casting avec la base du scénario quand même. Mais j'ai compris que ça allait être vraiment autre chose. Et moi, personnellement, j'ai été sidérée par la mise en scène du film. Je suis extrêmement impressionnée par Virginie. C'est vrai, hein?
C'est trop. Alors moi je suis arrivée là-dessus par le producteur Yann Vaza qui m'a appelée au départ. J'ai reçu un petit SMS un peu bizarre, t'es libre là, en réalisation, je sais pas quoi. Moi je me suis dit tiens, il a quelque chose à me proposer tout de suite. Et il avait vu d'autres gens avant moi et petit à petit, voilà, je lui ai dit écoute, envoie, je vais lire, je te dis, je suis à fond. Quand j'ai lu, j'ai trouvé que l'histoire était quand même très originale avec ce traitement en flashback. Pour un réalisateur, ce qui est compliqué, c'est que c'est un film choral dans un unitaire à peu près classique. On a 3 comédiens. Là, ils étaient 6, plus des enfants, etc. Donc c'est plus compliqué. Il faut voir chaque partition comme un air de musique différent. Et on a eu très envie, avec le producteur, de mettre l'argent aussi sur la scène d'accident, la cascade, qui est assez spectaculaire, justement, pour que le personnage de Sébastien dans le film, qui est un personnage donc décédé, puisse revenir et faire partie intégrante du film tout le temps, au même titre que les autres.
Oui, c'est très beau cette idée de nous permettre justement de connaître en fait. C'est vrai que ce qui est fou dans votre manière de jouer, Marie, c'est, alors je ne sais pas si c'est fait exprès, mais il y a le côté très ami, voilà, ils sont très amicales et tout, mais il y a des gestuels, des regards, le corps qui chaloupe à des moments où on sent des jeux de séduction.
Ben oui, parce que ce que moi j'ai trouvé très beau aussi dans la façon dont Virginie a donné corps en fait à ces êtres, déjà en nous choisissant, parce que l'incarnation c'est pas rien, mais ensuite même parfois en allant contre la nature de certains acteurs, en donnant d'autres rôles, etc., et en poussant à certaines choses, c'est que ça parle de l'ambiguïté des êtres et de comment ça fait partie intégrante de cet accident-là. Il y a un faisceau de choses et il y a aussi un faisceau d'ambivalence qui amène ces êtres finalement à se retrouver dans cette situation-là. Et qu'en faire ensuite de cette situation ? Puisqu'ils vont tous être aux prises avec des nécessités différentes. Elle va avoir besoin de survivre et de continuer de pouvoir faire manger son enfant, etc. De survivre à son deuil et de survivre même économiquement. Et eux, ils vont d'abord ressentir cette énorme injustice de se sentir petit à petit accusé, et puis quand même prendre conscience aussi petit à petit, notamment à travers le magnifique personnage de Paul que joue David Kamenos, qui est incroyable et qui est aussi incroyable aussi parce que Virginie, encore une fois, nous a tous amenés à aller loin et à raconter ce qui n'est pas écrit aussi. Virginie raconte ce qui n'est pas écrit. Tout d'un coup, David, il y a une scène où moi j'arrive pendant la fête de son fils, et quand j'arrive dans le salon, il est en train de regarder 2 filles qui s'embrassent au second plan. Bon, ça, c'est Virginie Wagon qui raconte ça. Ce n'est écrit nulle part. Et c'est très beau parce que dans ce regard qu'il a sur cette jeunesse, sur l'inconscience, sur l'amour, c'est déchirant de voir que lui, pendant ce temps-là, il est seul derrière la vitre. Et il n'y arrive pas. Donc je trouve que c'est un film assez exceptionnel parce que il y a tout ce dessous qu'elle nous donne à voir sans nous le montrer. Il y a les gens qui vont voir ce second plan, les gens qui le verront pas. Mais en tout cas, il existe et tout est signifiant.
Ah, mais c'est moi j'ai vu. Donc, c'est vrai qu'avec David Kamenos, il y a cette complicité et ces regards non dits, les positionnements, le cadrage que vous avez fait. Mais des fois, voilà. Alors, on peut avoir plusieurs lectures. Mais...
Le personnage de Paul n'est pas non plus qu'un veuf amoureux de Salomé. il a aussi des désirs, une sexualité, et ce plan où il regarde les deux filles s'embrasser, il se croit seul, il n'a pas encore entendu Marie arriver.
Mais non, il a pas.
Voilà, ça ouvre son espace sexuel déjà.
Ouais.
Et c'était très important pour
moi. Et il y en a plein des choses comme ça dans le film.
Oui, il y a plein de petits, des petits détails. Que ouais. Alors on va pas tout dire parce que c'est dommage, ça gâche très justement cette saveur qu'on a à découvrir. On se dit, ah oh, mais tiens, c'est pas ça. Voilà. Et ça apporte énormément au sujet qui est quand même très dur,
oui,
très lourd, bien. Lourd de conséquences, quoi.
Mais c'est tous ces moments de dialogue, tous ces regards, tous ces mouvements de corps. Moi, j'ai fait beaucoup de danse et j'aime beaucoup les corps qui bougent. Et j'étais très attentive à ça sur tous les personnages qui sont très différents. Donc, c'est de creuser quelque chose de souterrain qui est dans le non-dit et qui vient donner de l'épaisseur au sujet sans le réduire, sans l'encercler trop, mais qui donne de l'air. Et donc une forme un peu hypnotique, un peu magique, qui fait qu'ils sont plus vastes qu'eux-mêmes avec les masques qu'ils portent à certains moments et qui vont petit à petit baisser. Donc ces zones d'ombre, elles bougent aussi. Et puis au contact de l'un ou de l'autre, tout d'un coup ils se rééclairent, ils se disputent, mais c'est tout le temps mouvant. Et c'est ça qui m'intéresse dans la mise en scène, en fait, de bouger. Je trouve ça drôle, ça me fait rire. Et puis,
ça rend le film incroyablement vivant, alors que c'est un film qui parle de la mort, quand même.
Voilà.
Et ça, c'est génial. Et puis, je pense que c'est une histoire incroyablement universelle, parce que je pense qu'il n'y a pas une personne adulte ou même ado qui ne s'est pas posé la question à un moment donné d'empêcher un copain ou une copine de partir, quoi.
Ou qui n'est pas sortie elle-même bourrée, oui, en se disant, oh là, comment je vais rentrer,
est-ce que je prends ma voiture.
Voilà, donc il y a un énorme tabou. Moi, c'est ce qui m'intéressait quand j'ai accepté le projet. Il y a un énorme tabou sur l'alcool. En France, on adore picoler, on est la première. Et on n'en parle pas de ça, de cette difficulté de rentrer derrière.
Oui, d'assumer. On le dit souvent d'ailleurs quand on est dans une soirée ou autre et que la personne te regarde et dit bah, tu bois pas? Ah bah non, c'est moi qui conduis pour rentrer, donc si vous voulez rentrer en ville.
D'ailleurs, c'est très mal vu de pas boire. Alors les femmes, on va tout de suite nous demander, quand on est un peu jeune, on nous demande encore si c'est parce qu'on est enceinte, mais globalement, c'est comme si on...
On voulait pas faire la fête, voilà. C'était pas joyeux.
On n'était pas rock'n'roll, voilà. On n'était pas joyeux, voilà. Et c'est marrant parce que c'est aussi quelque chose qui peut choquer beaucoup dans d'autres pays. Cette idée que c'est bizarre de pas boire, quoi. En société, j'entends.
Oui, bien sûr.
La musique est importante.
Un sifflement.
Voilà. Alors il y a, en fait, j'ai eu l'idée du sifflement en travaillant avec Charlie Dupont, qui dès les premiers moments où je l'ai rencontré sur le tournage, commençait à siffler, m'a dit qu'il était super bon au sifflement, et je me suis dit, il me manque quelque chose là dans ce film avec Charlie, avec son personnage, qui serait très très important, en tout cas dans les scènes du fantôme qui était un peu vide à l'écriture, et que j'étais pas à l'aise avec ça. J'aime pas spécialement les fantômes, je trouvais ça un peu... je voyais pas ce que je pouvais raconter avec. Voilà. Et je me suis dit, si je prends la thématique du sifflement sur son personnage, et ben je vais le remettre plusieurs fois, par exemple dès après l'accident sur la musique de Handel, ou j'ai fait siffler le musicien sur toute la musique, et puis je l'ai remis pendant le procès aussi, pour le faire exister pendant le procès, en acte de présence, et puis en tant que fantôme, quand il apprend le sifflement à son fils. Et donc, au départ, quand j'avais lu les trois séquences de fantômes, j'avais dit, ah non, mais moi, je vais les virer. Je suis pas proche des fantômes, ça me parle pas, et tout, je voulais pas les tuer. Et donc, il y a eu tout un chemin entre le sifflement, la façon dont j'ai fait habiller Charlie, en me disant, il faut trouver un côté rock à ce fantôme, et tendre aussi, dans le rapport avec sa femme très sensuelle dans la scène de lit, qui est magnifique, avec Marie. et avec l'enfant, et puis à la fin, sur les tombes, quand tout d'un coup il part comme un mec culte, un musicien culte, part entre les tombes, en peignoir, avec son petit même femme, et Louis Attac, je t'en même
qui revient aussi plusieurs fois.
Donc Louis Attac, c'était dès le départ, ça c'est le producteur qui connaissait bien le groupe et le violoncelliste qui a négocié donc les droits. Et puis, donc moi je me suis dit, voilà, je raconte l'histoire d'une génération qui a 43 ans, ils sont tous à peu près 43 ans, parce qu'il faut que ce soit des copains de lycée, voilà, pour générer ce groupe d'amis-là. Pour ceux qui étaient plus vieux, ben on les entend, voilà. On a essayé de faire un amalgame pour qu'ils aient tous l'air à peu près du même âge, et si, mais...
Marie, quand on fait une telle scène, justement, avec le fantôme, qu'est-ce qu'on pense la première fois qu'on vit cette scène?
Alors, attention, moi j'ai beaucoup d'imagination comme personne. J'ai un univers intérieur et donc, après, voilà, c'est des scènes où on se dit ça passe ou ça casse en fonction de avec qui on est accompagné. Parce que moi j'adore qu'il y ait plein de niveaux de lecture, j'adore qu'il y ait plein de niveaux de conscience, et j'adore le montrer, j'adore que la fiction, elle nous permette aussi de voir au-delà du réel. Donc en ça, moi j'adore sur le papier la scène de fantôme, mais on est bien d'accord qu'elle peut être aussi hyper kitsch, si jamais elle est mal mise en scène. Donc si vous voulez, c'est bien pour ça que moi je suis ressortie de la rencontre avec Virginie complètement exaltée, parce que je voyais bien que j'étais face à quelqu'un de très vaste, et aussi, attention, hein, c'est aussi qu'il y a des gens qui sont un peu feignants et que Virginie, pas du tout, au contraire, elle va aller chercher, comme elle le disait très bien tout à l'heure, tout ce qui est souterrain et tout ce qui va faire un être humain, il est bien plus que son apparence. Et souvent, on reste un peu au premier degré des choses, et parfois aussi dans les films, et parfois aussi dans les téléfilms de fiction, soit parce qu'il n'y a pas assez d'argent, soit parce qu'il n'y a pas assez de temps, etc. Et là, malgré le manque de temps, malgré le manque d'argent, il y a eu une exigence et une envie de recherche et de symbolisme. Et moi, ça, j'adore, en fait, ça m'exalte complètement, parce que je trouve que tout le monde s'y reconnaît. Je pense qu'il n'y a pas une femme veuve, surtout dans un truc aussi tragique qu'un accident, qui ne s'est pas imaginé des milliers de fois qui reviennent. Moi, ma grand-mère qui est morte, elle est tout le temps avec moi. Et par moments, je lui parle toute seule dans la cuisine. Et j'aimerais bien que quelqu'un, qu'elle soit là en vrai et que quelqu'un me la montre.
D'ailleurs, même de le sentir, avant même de voir qu'il est là,
elle le sent.
Ouais. Elle le sent. Et il y a ces regards, ces prises de regards que vous avez fait sur...
Virginie a cherché à construire un vrai couple physique. Avec peu de scènes ensemble, très peu de scènes ensemble. Et c'est vrai que Charlie est un partenaire incroyable, parce que il va à fond, enfin c'est vraiment quelqu'un de très engagé dans le travail, qui a peur de rien et qui y va et qui a pas du tout peur du ridicule. C'était difficile comme rôle, parce que c'est pas facile de jouer l'alcool.
C'est difficile de jouer un mec bourré,
et il est incroyable. À tel point qu'on nous a même dit qu'il était trop bourré.
Oui, parce que
ça faisait peur, quoi.
Après,
il fait peur.
C'est toujours pareil. Derrière, on me dit oui, c'est un personnage, il est très bourré. J'ai dit il y a une gradation. C'est comme ça. Mais je peux pas traiter à moitié, moi.
L'alcool, un peu, et puis après, il y a les problèmes, il y a les soucis, et hop, ça englobe d'autres choses. Faire la fête aussi, où là, on perd pied.
À quel moment on reprend conscience, à quel moment... Et puis, ça pose aussi la question quand même intéressante, hein, de la responsabilité de tout le monde dans ce qui nous arrive, et comment certaines choses peuvent être évitées ou pas.
Moi, j'ai essayé de pousser tous les curseurs quand j'ai récupéré ce scénario. Donc, le curseur de l'alcool, il fallait le pousser très, très loin, même jusqu'au moment où il tombe avant de rentrer dans la voiture, quand il sort de la maison. Ça, c'était pas du tout écrit comme ça, mais je me suis dit, si on ne pousse pas le plus haut possible, on prend pas, ça reste trop lisse, ça reste, oui, il est bourré, mais on sait bien que quand on a un mec bourré chez soi, au bout d'un moment, on n'a qu'une envie, c'est qu'il se casse. Parce qu'on veut se bouger,
Et puis parce que ça, c'est malaisant.
C'est malaisant.
Il crée du malaise.
Il crée du malaise.
Mais aussi parce que c'est toute une communauté de gens qui est quand même truffée de non-dits et de... Et donc lui, il fait ressortir tout ça.
Et lui fait ressortir tout ça avec sa jalousie. Et cette scène magnifique entre Charlie et Marie sur l'histoire de la robe, là. voilà, quand elle s'apprête pour la soirée et qu'elle s'engueule avec son mec et que du coup il part tout seul, c'était la scène pivot du film. Avec Marie, on en a beaucoup parlé, c'était ultra important. Je la trouve magnifique de sensualité, de beauté, de... Et ce mec qui, voilà, donc, il a une montée de jalousie qu'il n'arrive plus à contrôler. Et finalement, c'est la cause de sa mort, c'est pas tant l'alcool que aussi ça, hein, on est d'accord. C'est aussi comment quelqu'un devient noir tout d'un coup et rentre dans sa mauvaise trip. Et là, l'alcool est là.
Ouais. Oui, parce que l'alcool est toujours un révélateur de quelque chose.
Voilà.
Un.
Oui. Donc au début, dans le scénario, il n'y avait plus rien sur l'alcool, il ne voulait plus boire tous un verre d'alcool, et j'ai gommé tout ça en disant que c'est ridicule, parce que c'est pas qu'une question d'alcool ce film, ça va beaucoup plus loin.
Il y a plein de messages.
Voilà, donc l'alcool, oui, on sait tous avec modération, mais c'est pas pour ça que je vais enlever tous les verres, et je m'en ai mis souvent devant le personnage de Paul, qui lui... entre un peu dans une forme de mélancolie aussi, de sa culpabilité, il devient de plus en plus coupable, enfin il se sent de plus en plus coupable, donc l'alcool est une aide quand même à ce moment-là, et j'ai mis des verres, je
pense que c'est un cap, ouais, pour qu'il oublie entre parenthèses ce qu'il ressent, sa culpabilité, quoi.
Après, il bosse dans un bar quand même, hein. C'est difficile de gommer l'alcool, c'est
compliqué. Ouais.
Mais donc du coup c'est pas un procès contre l'alcool, mais c'est une série de répercussions qui est l'abus de jalousie, d'alcool, de difficultés de rapport avec l'autre, des masques qu'on porte, de tout ce qui est tué. Voilà, la farce de la vie qui est compliquée à vivre. Il y a des moments où on se reprend en pleine tête.
S'il y avait un mot pour définir les percussions, ce serait quoi, le film?
Cascade. De plus en plus.
Oui, le fil. Tu disais ça l'autre jour à la projection, c'était magnifique, comme tu avais voulu tendre l'élastique, et c'est aussi un endroit de risque. Peut-être ce serait le risque aussi, c'est-à-dire prendre le risque de la vie. Jusqu'où on va, et c'est aussi le risque de l'amour, de la sensualité, de l'amitié, des émotions fortes en fait. Donc c'est quand même aussi un film qui parle de ça. Qu'est-ce qu'on risque à vivre, quoi.
Très bien, très très bien.
Moi j'ai adoré le film, sérieusement. Hein, j'ai... Oui, mais parce que d'abord c'est un film très choral, donc je trouve que j'ai adoré le faire. Mais après parfois on est déçu de ce qu'on voit, ou ça correspond pas, ou on s'est imaginé trop de choses. Puis il y a le montage, et puis il y a toutes les choses qu'on n'a pas vues, parce qu'il y a des scènes dans lesquelles moi je suis pas
du
tout.
Elle n'était pas dans la maison, jamais, elle n'a pas vu.
La fête, j'avais pas vu.
Elle a vu le film que lundi, donc c'est très très récent.
Je suis encore sous le coup, et c'est vrai que voilà, j'ai été très impressionnée par. Comment le point de vue de quelqu'un, ça rend tout autre, et comment la personnalité de Virginie, son intelligence et son regard artistique aussi sur les choses fait que c'est, je trouve que c'est un film rare, quoi, vraiment, et qui est bouleversant, qui est sensuel et qui en même temps pose des questions, mais qui n'est pas non plus un film à thèse, pas du tout, c'est l'opposé. Alors que ça aurait pu l'être, quoi, sur cette chose de...
Voilà, surtout pas.
Il faut pas voir... non, pas du tout, quoi. C'est l'inverse de ça.
De la légèreté, oui. Il y a du rire vraiment drôle. Qui est en dessous. Et qui...
Plein de choses drôles. Ah,
plein de deuxième degré, en fait, où chacun joue sa partition tout en sachant pas trop où se situe l'autre.
Notre actualité, tout simplement.
J'espère qu'on aura rapidement une date de diffusion sur ces émissions.
Ça, ce serait super. Oui, à HPI, on termine la saison 3 qui va être une sorte de feu d'artifice, parce que vraiment les scénaristes sont allés très très loin, donc c'est très réjouissant.
Ils sont déjà très loin.
Vous allez voir.
Ils vont rajouter.
Ils vont encore rajouter. Donc ça, c'est super joyeux. J'ai aussi participé à un très beau film, un premier film, donc c'est des choses qu'il faut défendre sur un sujet très difficile qui est l'inceste, qui est un premier film d'une jeune belge qui était à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, qui s'appelle Dalva, et qui sort tout début mars, je crois, Dalva, DALVA.
On l'a vu au Festival du film de Muret. Il est magnifique ce film.
Magnifique.
D'ailleurs, il a alors si je ne me trompe pas, il a remporté le prix du jury adulte.
Bah, ça ne m'étonne pas. C'est vraiment un film très étonnant et pareil, avec un regard incroyable, puisque voilà, ça pose plein de questions sur cette chose tragique, oui, mais en même temps c'est très vivant aussi. Donc voilà, et puis je viens de faire un autre très beau téléfilm encore pour France 2 avec un réalisateur qui s'appelle Alexandre Coffre, qui est une sorte de thriller, mais alors très très âpre et très intéressant aussi, encore une fois un peu sur le deuil, mais de manière très différente, mais il y a aussi un accident.
Mais décidément,
mais en même temps, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Qui s'appelle 12 ans, 7 mois, 11 jours.
11 jours.
Voilà.
Des projets ?
Et moi, des projets, ben, j'ai déposé une série là, dont j'attends la suite. J'ai plusieurs unitaires aussi qui sont en cours de savoir de production. Donc voilà, je suis sur plusieurs écritures. Moi, le quotidien. Peut-être un prochain projet.
Moi, tout ce que Virginie me proposera, je sauterai dedans à pieds joints. Mais elle le sait, j'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit 1000 fois.
Ouais. Quand on fait des très belles rencontres, c'est sûr qu'on a... Mais on est dans le plongeur.
C'est rare aussi, parce que vous savez, souvent les réalisateurs, déjà, il faut savoir qu'un réalisateur, il met parfois beaucoup de temps entre ses projets.
Ouais, c'est ça.
Nous, les acteurs, quand on a la chance de travailler un peu, bon, bah, on travaille, je ne parle même pas de ceux qui travaillent tout le temps, mais on travaille et on s'adapte, on change de réalisateur, on change d'interlocuteur. Et donc, c'est assez facile, petit à petit, pour nous, de nous adapter. Finalement, les réalisateurs, souvent, ils ont peur des acteurs, parce qu'ils ne les fréquentent pas tant que ça. Et parfois, ça peut être intimidant, parce qu'on est un matériau. Et donc, il y a ceux qui ont peur de trop nous utiliser. Il y a ceux qui n'osent pas dire, etc. Ou il y a ceux qui sont parfois maladroits ou brutaux, qui ont du mal, quoi. Et Virginie, elle est tellement dans le travail, elle est main dans le matériau, qu'en fait, c'est impossible de prendre mal les choses. Ça n'est que du travail. Et moi, j'avoue que c'est les réalisateurs et les metteurs en scène avec qui j'ai le plus de plaisir à travailler. Et parce que j'aime bien qu'on y aille, quoi. On est là pour bosser, on est là pour chercher. Si on cherche pas, si on s'arrête au premier degré de ce que peuvent faire des bons acteurs, ce sera toujours beaucoup moins intéressant que si on a cherché autre chose. Donc voilà, moi j'adore.
Il y a beaucoup de réalisateurs qui restent planqués derrière leur tombeau,
oui,
et sous leur tente, et ils ont peur des comédiens, ils s'y vont jamais.
C'est vrai, hein.
Ils sont
intimidés.
Ils se planquent derrière la technique pour ne pas aller au corps à corps avec le comédien. Et c'est pas possible ça, enfin moi je ne conçois pas du tout.
J'ai eu la chance quand j'étais sur le tournage de voir justement les réalisateurs avec les comédiens parler au moment où il y avait des changements de caméra, tout ça. Ils venaient les voir, c'est alors tu t'es bien senti, tu t'es... Ah, ce serait bien si tu pouvais, c'est excellent, quoi.
Ben oui, mais c'est pas toujours le cas. Parce que, mais après, c'est un truc bizarre. Et puis, il y a des réalisateurs qui sont des personnalités très attachées à l'image, qui vont faire des images magnifiques, mais pour qui, malgré tout, on serait un peu un objet dans le cadre. Et qui vont pas aller creuser nos capacités, où est-ce qu'on pourrait aller d'autre, l'émotion, etc. Donc voilà, moi je suis du côté du corps à corps.
Il faut le corps à corps, même s'il y a des mamans, c'est dur.
Oui,
il y a des mamans, le comédien n'a pas envie de donner. Moi j'arrive pas peut-être à lui dire exactement où je veux aller. Je sens qu'il y a un truc qui merde. Et c'est dans le travail qu'on fait à deux, qu'on se rejoint et qu'on crée ensemble un rôle et
des scènes
tout le temps. Et ça, c'est passionnant. Enfin, moi, je fais ce métier pour ça, pour ce travail quand même avec le comédien, de transcender quelque chose pour un personnage, pour qu'il soit bigger than life. Et tout en restant un peu réel, il faut qu'il soit bigger. Donc, on cherche plein de trucs pour ça.
Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.
Voilà, vraiment intense. Et c'est vrai que on ressent toute l'émotion de Virginie, c'est très fort, et aussi l'implication de Marie Desnarnaud par rapport à ce film très pas si facile que ça, avec un sujet qu'est-ce qui s'est passé, une bande d'amis, et puis ce problème de l'alcool et cet accident qui fait chavirer les vies. Et ce côté un peu fantastique à un moment donné du film, alors je vais pas trop vous en dire, hein, parce que ce serait vraiment vous gâcher votre plaisir, mais dans la distribution, on a Lannick Gautry qui joue Ethan, Charlie Dupont qui joue Sébastien, Jérémy Barrière qui joue Corentin, Marc Rosy qui joue le juge Éric Colville, Pierre Sévaer qui joue Gilles, Sophie Defers qui joue Julie, et un certain David Kamenos qui joue Paul. Si je dis un certain David Kamenos, c'est parce que j'ai eu la chance de le voir au Festival de fiction de La Rochelle et de lui parler du film Répercussions. Bonjour David.
Bonjour.
On est au Festival de fiction de La Rochelle.
On y est. On y est bien.
Oh, qu'est-ce qu'on est bien.
Quel accueil ici.
Un film qui a été présenté au Festival de Luchon.
Répercussions. Ah ouais, mais je suis content, je crois qu'il va sortir, parce qu'on l'attendait il y a longtemps.
Là.
C'est avec des acteurs chimiques, avec Marie,
Marie.
Avec Sophie de Furs, avec Annick, enfin voilà, c'est... Ouais.
Ton personnage aussi était très ambigu.
Oui, on sait pas trop.
On se pose plein de questions dessus.
Ouais, on nous impose pas des réponses sur le...
Et ça t'a hâte, qu'on le découvre.
Je suis très content, je viens d'apprendre là que ça a l'air d'être dans les tuyaux pour une sortie bientôt.
C'était un petit bonus, c'était un réel plaisir de pouvoir parler du film avec lui parce que j'avais eu un vrai coup de cœur pour Répercussions. Soyez au rendez-vous mercredi 6 décembre à 21h10 sur France 2.
Inédit, mercredi soir.
C'était juste une connerie d'accident.
Non, on meurt pas comme ça,
on lui a trouvé 2 grammes d'alcool dans le sang.
Ça m'étonnerait. Il aurait pas conduit en ayant autant bu.
Les seuls à l'avoir vu avant son accident, ce sont eux, vos soi-disant amis.
Mais vous l'auriez pas laissé repartir s'il était vraiment bourré?
Bien sûr que non.
Il y a forcément une explication. Et moi, je veux comprendre.
Vous allez devoir porter plainte. Ça permettra d'ouvrir une enquête.
Elle est complètement folle.
C'est dégueulasse, tu vois, nous faire porter la responsabilité de la mort de Fred.
T'avais vu, toi, qu'il avait trop bu?
Peut-être.
Un choc et tout vole en éclats. Répercussions. Mercredi soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Ce programme est disponible en audio description.
C'était Chaud Devant, Festival TV de Luchon, avec le film Répercussions. Merci énormément à Virginie Wagon, à Marie Desnarnaud et à David Kamenos pour nous avoir parlé du film Répercussions. Rendez-vous ce mercredi 6 décembre à 21h10 sur France 2. One day is fine and next is black.